je voulais aussi vous en faire profiter par la grâce de Dieu. C'est le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Je pense que vous l'avez déjà certainement lu, vous connaissez le texte, vous avez certainement entendu les prédications dessus déjà. Mais je voulais aussi apporter donc ce que le Seigneur met sur mon cœur par rapport à ce texte-là. Amen. Je lis donc la parole de Dieu. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Il fut saisi d'une grande crainte, d'une grande frayeur, et il se dit les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Alors, je vais préparer une petite vidéo, parce que Jean aussi, on peut la présenter. C'est donc pour illustrer un peu, imaginer ce que je vais dire aujourd'hui. Enfin, parler un peu de... Ce matin, je voulais parler un peu de ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle le silence de Dieu. Jean vous en a parlé un tout petit peu, c'était un peu la dernière fois, surtout dans le sens de la prière aussi. Mais surtout, l'attitude à tenir, comment réagir quand on est dans une situation où on croit que Dieu est silencieux, il dort. Voilà. Quand on vit une situation, on a prié, on n'a pas reçu de la réponse qu'on attendait et Dieu dort. C'est bon, vous pouvez mettre la vidéo? Ok. Je pense que cette vidéo est assez parlante. Hein. Elle montre une personne qui est en train de prier, mais une prière violente, qui, à un moment donné, s'est levée pour dire non, il faut que cela cesse. Amen. On a un ennemi commun, ce n'est pas de lui que je suis venu parler. Moi, je suis venu parler de celui qui est notre maître, notre Seigneur et notre roi Jésus-Christ. Amen. Dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure, que j'ai lu tantôt, il est question donc du Seigneur Jésus, donc, dans le livre des Marc. Vous savez très bien qu'il y a 4 évangiles qui existent. Hein. Il y a chaque évangile, selon l'auteur, exprime ce qu'on pourrait appeler une face de Jésus, hein, une image de Jésus, montre une dimension de Jésus. Et il y a l'évangile de... Il y a l'évangile de Matthieu qui présente Jésus comme le roi des Juifs, le lion, en fait, à la face de lion. On a l'évangile de Jean, que j'aime particulièrement, qui présente Jésus comme la face de l'aigle. On a aussi l'évangile de Luc, qui présente Jésus comme la face de l'homme. Et enfin, l'évangile de Marc, je ne vais pas donner la chronologie, je vais donner par rapport à ce que je dis. Et donc, l'évangile de Marc, qui présente Jésus comme un serviteur. C'est donc à juste titre que le verset clé donc, de l'évangile de Marc, c'est Marc 10, verset 45, qui dit « En effet, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc, Marc n'a pas marché avec Jésus, mais il était plutôt un disciple de Pierre, Simon Pierre, et un collaborateur de l'apôtre Paul. Il a été le premier à mettre par écrit toute la tradition orale donc, qui racontait l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc, dans ce texte, comme nous voyons très bien, Jésus a enseigné les versets qui précèdent donc cette partie-là. Jésus a enseigné sur beaucoup de thèmes, surtout sur la parabole du semeur, des choses comme ça. Et à un moment donné, il prend ses disciples et dit, bon, allons de l'autre bord. Et il monte dans la barque, avec des disciples qui sont, vous savez, il y avait beaucoup dedans qui étaient des marins pêcheurs, donc qui connaissaient l'eau, qui étaient habitués donc à la navigation, même si ce n'est pas aujourd'hui les mêmes embarcations qu'on a, mais bon, ils étaient quand même des ouvriers repus à la tâche, donc de la navigation, et ils allaient. Et il se trouve qu'au milieu donc de cette traversée-là, le vent a commencé à se faire menaçant, la mer a commencé à se déchaîner, grande tempête, et on a vu que, on constate le texte, que les disciples donc, qui étaient avec Jésus ont été saisis de grande peur, ils ont commencé à avoir peur. Et on doit se poser la question déjà de savoir, mais eux qui sont tellement habitués donc à naviguer, si ce jour-là, ils ont eu peur, c'est que c'était un vent spécial, c'était une tempête spéciale, c'était la mer s'était déchaînée de façon spéciale. Et donc, surtout que la barque commençait à prendre de l'eau, ça a plus tourné la tête et c'était pratiquement la grande panique. Mais pendant ce temps, la Bible nous dit que Jésus dormait à l'arrière du bateau, sa tête était sur un coussin. Je ne sais pas si le coussin n'était pas mouillé, parce que normalement, le coussin, ça doit se mouiller. Et lui dormait. Et pendant qu'il dormait, les disciples se réveillent. Et le réveil, c'est toi qui nous a demandé de partir où on va. Ah, c'est moi, c'est ça, on est en train de payer. Toi, tu dors. Qu'est-ce qui se passe? Le réveil. Bon, le maître se lève et normalement, il devait dire, calmez-vous mes enfants, c'est moi Jésus, je suis là, vous n'êtes pas vous inquiéter, tout et tout. Mais non, il est rentré dans une colère. Comment vous avoir si peur? Donc vous n'avez pas de foi. Donc, je pense que ce jour-là, tout le monde était étonné, ça va, mais pourquoi il nous crie dessus? Ici, on dit, tu m'agresses. Pourquoi tu nous agresses?
Jésus le prend. Pardon. Et donc, il s'occupe de la mer.
Il menace la mer. Il menace la tempête.
Et calme.
Au point où les disciples regardent. Dis donc, qui est cet homme? À qui même la mer et la tempête obéissent de cette façon?
Waouh!
Grand étonnement. Et je prie que le Seigneur Jésus vous étonne de venir de cette manière au nom de Jésus.
Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de septembre. C'est mon anniversaire le 8 septembre, c'est mon anniversaire. Je suis content d'être le mois de septembre.
Et on rentre dans le dernier trimestre de l'année. Et je prie que ce dernier trimestre soit un trimestre de bénédiction. que Dieu vous étonne. Que vous puissiez dire.
De la même façon que Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux ont vu qui tu es. Alléluia. Et Dieu est un Dieu qui fait des choses toujours extraordinaires comme ça.
Et ils étaient étonnés. Pourtant, ils marchaient avec Jésus. Souvent, on peut marcher avec Jésus. Et au moins, la monotonie nous oblige à croire que c'est quelqu'un comme tout le monde. Mais en réalité, ce n'est pas ça. On l'appelle la pierre angulaire. C'est le Fils de Dieu. C'est pour ça que Marc même commence l'évangile avec l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Je vais épargner un peu la liste des versets pour gagner un peu de temps. Mais déjà, dans Éphésiens 2, verset 20, on l'appelle comme la pierre angulaire. Il est le premier-né de toute la création, Colossiens 1, verset 15. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. 1 Timothée 6, verset 15. Il est la lumière du monde. Il est le bon berger. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le seigneur de la vie. Il est la résurrection et la vie. Il est celui qui fait marcher les paralytiques, qui fait entendre les sourds, qui fait parler les muets. Il n'a point changé. Ce qu'il a fait hier, il continue de faire aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu l'as connu d'une certaine façon que tu penses que c'est fini, c'est comme ça, il est limité. Non! Jésus n'est pas comme ça. Il est Dieu. Quel que soit ce qui se passe dans la vie d'aujourd'hui, quel que soit ce qui se fait autour de nous, il reste le Seigneur. Et la marche avec lui, la vie chrétienne, ce n'est pas forcément une destination. C'est une aventure avec Jésus, avec cet homme-là, qui était le Fils de Dieu, qui est en même temps Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est un processus qui chaque jour nous demande certaines progressions. Et quand vous regardez ce texte-là, on se rend compte que dans notre vie de tous les jours, il y a un moment donné, on est jeune, ça arrive, et on cherche à... On fait des études, on finit cette étude, à un moment donné, on a fini, on a un job, on décide de se marier, pour prier pour faire le bon choix, on se marie, on est dans la vie, on habite peut-être une maison petite, mais au moment où on a fini, on a une maison plus grande. On a fini à avoir des enfants, on travaille, et dans ce travail, à un moment donné, on a fini à avoir une promotion. On cherche à augmenter notre confort. Donc la vie, à un moment donné, on cherche à aller plus haut, on cherche à progresser, on cherche à s'améliorer. Mais notre vie chrétienne doit aussi être de cette façon. C'est pour ça que quand Jésus parle avec ses disciples, il leur dit à un moment donné, allons de l'autre bord. C'est comme une traversée. C'est comme... de changer une autre dimension, allons quelque part d'autre, allons en eau profonde. Il faut que la connaissance qu'on a du Seigneur grandisse. Et la chose par laquelle cette connaissance doit grandir, c'est la foi, parce que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. C'est pour ça qu'il dit, allons de l'autre bord. Et quand on regarde encore le texte, il dit, la Bible dit, ce même jour, sur le soir, ça veut dire que c'est Jésus qui ordonne le changement. Ce n'est pas nous, parce que le maître de notre vie, c'est Jésus. C'est lui qui ordonne le changement, qui décide qu'à un moment donné, on passe à notre place. Celui qui t'a jugé, toi tu te regardes faible aux yeux du monde, tu te regardes incapable aux yeux du monde, tu te regardes petit aux yeux du monde, mais Jésus qui t'a créé, il choisit des personnes qui ne sont pas qualifiées, mais il choisit des personnes qui qualifient. Il choisit des personnes et il leur donne un équipement. Il leur donne un potentiel, il leur donne une capacité pour aller de l'avant. Pour vaincre, parce que lui, il a déjà tout fait à notre place, mais il a besoin que nous fassions les choses, parce que maintenant, il est au ciel, et il attend que nous soyons participants de son œuvre. Il a besoin de nous, et il nous a équipés pour cela. C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Mais, même quand tu veux monter, regardez, je suis ici, je peux monter si je ne monte pas comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je lève le genou. Il y a un effort à faire. Pour aller à notre niveau, même là, on fléchit le genou pour partir. Et vous savez très bien que même dans les tests sportifs, parfois, c'est que des flexions. Ça, c'est pas la même chose. Pour faire des efforts, il y a des efforts qui arrivent. Et, je m'en présente, il y a des tests. Et ça, c'est un test. Et quand ils sont partis avec lui, ils ont vu que c'était un test. Mais qu'est-ce qu'on fait quand les tests arrivent? Souvent, dans notre marche, pendant qu'on est en train de gravir les échelons, il y a des situations difficiles qui arrivent. En réalité, c'est des tests. pour voir comment on va réagir. Qu'est-ce qu'on va faire? Et parfois, devant ces situations, on a le sentiment que Jésus dort.
Oh, notre Dieu! À quel Dieu? C'est dans le psaume 121, on le dit.
Qui ne sommeille ni ne dort. Dieu ne dort jamais. Alléluia, en réalité. Il ne dort jamais. Mais il veut voir comment tu vas réagir. Et c'est comment, c'est sur la base de ta foi. Mais quelle foi tu as? Est-ce que tu as une foi religieuse?
Une foi gentille? Une foi sympathique? Une foi... Vous voyez la dame qui parlait? Ça, c'est pas une foi gentille, hein?
Parce que
la Bible dit que, sinon je vous lis tous les versets du temps, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Amen. Et la Bible dit que, dans le livre d'Hébreu, toujours, que lui, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est-à-dire que nous sommes des frères de Jésus. On est d'accord pour ça? Si Jésus est le lion de la tribu de Juda, ça veut dire qu'en nous, en chacun de nous, il y a un lion qui dort. Il y a un lion qui dort en nous. Et vous savez, le lion, quand il est dans la forêt, dans la savane, il marche avec violence. Il marche avec force.
Quand le lion rugit, tous les animaux savent que c'est le chef, le roi des lions, des animaux qui a rugi. Parce que Jésus est le roi des rois. Donc c'est le petit roi aussi. Alléluia.
Quand le lion rugit,
il n'a pas peur de l'éléphant, parce que l'éléphant est plus fort que lui. Il n'a pas peur du rhinocéros, parce que le rhinocéros est costaud, de l'hippopotame. Mais il rugit à cause de son identité, à cause de ce qu'il est. Alléluia.
Et quand il rugit, tout le monde a peur.
Il marche avec confiance et respect, quelle que soit la situation qui arrive.
Et
depuis, Jean-Baptiste, le roi des cieux, est forcé. Seule les violences en la part. Donc on a besoin, à un moment donné, d'avoir certaines violences dans la foi.
On a besoin, à un moment donné, de se lever et de parler aux situations. Parce que la foi, c'est ce qui nous permet de triompher du monde. Les situations difficiles de la vie. Quand à un moment donné, tu n'as plus rien, tu ne sais plus quoi, vers quoi te tourner. Tu es obligé de te lever. Tu as prié plusieurs fois. Tu arrives à un moment donné. Quand la tempête arrive, elle ne pardonne pas. On a vu ce qui s'est passé en Haïti, des choses comme ça. Ton confort est bouleversé. Des personnes qui ont pris toute leur vie pour faire des économies, pour acheter des maisons, du jour au lendemain, basta, la maison n'existe plus. Tu as construit ta vie, tu as fait des études, tu as eu un travail, pour une raison ou pour une autre, un jour tu le perds. Tu as fondé une famille, tu as donné une certaine éducation à tes enfants, à un moment donné.
Pourtant, tu as tout fait.
Mais l'enfant choisit une voie que tu n'avais pas prévue. Parfois, c'est des personnes que tu as aidées qui se retournent contre toi. D'autres fois,
tu sais que tu es un des meilleurs travailleurs de ta boîte, de ta société, mais le nouveau patron qui est arrivé, il n'aime pas ta tête, tu ne sais pas ce que tu lui as fait.
D'autres fois, c'est le voisin, tu te fatigues, tu as essayé toutes les voies possibles, mais ça ne va pas. J'ai vu aussi une fois, là, il y a quelqu'un qui a vu ses papiers qui ont été volés, il y a des choses qui ont été faites sur son compte des banques. Ta vie est bouleversée à un moment donné. La maladie peut venir. Tu pries, la maladie ne va pas depuis un certain temps. Et tu ne sais pas que faire. Mais à un moment donné, il faut se lever dans la foi. Il faut se lever dans la foi. Jésus a dit à ses disciples, allons de notre bord.
Dans notre chemin avec le Seigneur, il y a des moments
où on passe à un autre niveau, à une autre étape. J'allais dire, Dieu, mais on devient agent de son développement. Notre foi doit grandir. On doit se lever et parler aux situations. Parce qu'en réalité, est-ce que
il y a une question que les disciples ont posée au Seigneur.
Mais Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Dieu est amour. Donc Dieu, il est ainsi, sinon plus qu'impliqué dans nos vies que nous-mêmes. Mais vous savez,
avec le Seigneur, ce qui se fait à l'intérieur de nous est plus important que ce que le Seigneur fait avec nous. Dieu veut que nous puissions croître dans la stature parfaite de Christ.
Que nous puissions avoir ce modèle à qui nous devons ressembler. Être comme Christ. Avancer comme Christ. Marcher comme Christ. Lui-même, il a dit, si vous croyez en moi,
vous ferez des choses plus grandes encore que je n'ai fait.
Ce n'est pas... Je ne sais pas de la papa, mais ce n'est pas de la théorie vaine, c'est la parole de Dieu. Parfois, on se voit comme enfant de Dieu tellement on est dans la religiosité. Parce que la religion n'envoie pas au ciel. La religion, c'est l'effort que l'homme fait pour aller vers Dieu. Aucun homme ne peut aller vers Dieu. C'est Dieu dans son amour infini qui est descendu vers les hommes. Alléluia. Dieu qui est descendu vers les hommes. C'est Dieu qui est venu vers les hommes. Parce que lui seul était capable de le faire. Aucun homme ne peut trouver Dieu comme ça. Aller vers pour se faire sauver. Personne. Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, est venu vers nous. Et à un moment donné, on doit accomplir, on doit marcher notre vie selon les principes du royaume. Et le principe essentiel du royaume, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. La foi en Dieu. Parce que c'est la foi qui est la base de toutes choses. Mais cette foi, à un moment donné, doit être une foi violente. Une foi qui grandit, une foi qui se construit, une foi qui se bâtit.
Sur la base de la parole, mais sur la base de la confiance que nous avons en celui qui est notre Seigneur, notre Sauveur. Parce que la Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi.
Il travaille sur la base de ce qu'on lui donne comme foi. Il travaille sur la base de la confiance que nous plaçons en lui.
C'est pour ça que je dis que la vie chrétienne, ce n'est pas une destination, je suis avec toi. Non, c'est une aventure. C'est un processus. On marche tous les jours avec le Seigneur. On apprend à le connaître.
On apprend à connaître son fonctionnement. Et pendant qu'on marche avec lui, il nous enseigne, il nous parle. Il nous, parfois, il vient, il nous guide.
Il nous laisse à l'évasion, je suis là, je te regarde. Et dites-moi,
comment un bateau fonctionne normalement? Le moteur du bateau, il est où?
Qui c'est? Le moteur du bateau, il est où? Il est quoi?
Il est derrière. Le texte a dit quoi? Où? Jésus dormait où? Derrière. Donc, Jésus dirigeait le bateau. Je me rappelle très bien cette expression-là.
On dit le réseau, il plie, mais il ne se casse pas. Le réseau, il plie, mais il ne se casse pas. Donc, parfois, on peut plier, mais on ne se casse pas, on ne se brise pas.
Parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Il est à l'arrière du bateau. C'est lui qui dirige le bateau. L'océan s'est décédé, mais le bateau avance. Alléluia. Quelles que soient les vicissitudes de la vie, tu avances. Quels que soient les coups que tu as pris, tu avances. Quels que soient les malheurs qui sont passés dans ta vie, tu avances. Quels que soient les douleurs que tu as connues, tu avances. C'est ça le plus important. Tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas... Ta vie ne va pas s'arrêter là. Tu ne vas pas couler. Parce que ton Rédempteur est vivant. Il est Dieu. Il n'a point changé. C'est lui, Jésus. Et notre vie sur la terre est une vie avec lui. Il nous dirige. Il est esprit. C'est pour ça que si tu crois dans ton cœur, que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu vivras. La foi, c'est le cœur.
La foi, c'est aussi la bouche. Il faut parler aux situations. Comme la dame, elle a parlé. Elle est fatiguée. Elle s'est levée, elle a parlé. Quand tu es fatigué, tu te lèves et tu parles. Tu ordonnes.
Il dit, la chose arrive. L'ordonne, elle existe. Mais on ne s'assoit pas et à un moment donné, on est découragé. Non, ça peut arriver à un moment donné, tu es découragé. Mais lève-toi et continue la marche.
Alléluia.
Parce que tu es un Dieu qui est vivant. Même si le monde veut te faire croire autre chose.
Tu es un Dieu qui est vivant.
Ce n'est pas une théorie. Aujourd'hui, il faut comprendre que tout le monde doit revenir au véritable, à Christ lui-même. Parce que nous partons vers la fin des temps. Il est important et que les gens qui sont autour de nous sachent que Christ est le sauveur de l'humanité. Personne d'autre. Il n'y a aucun autre salut, en aucun autre nom, sauf le nom de Jésus-Christ. Si tu ne le connais pas encore, que tu es assis dans cette salle, il est temps pour toi de faire la paix avec lui. Parce que tout n'est que vanité sans lui. En dehors de lui, il n'y a aucune autre gloire aucun autre bonheur. Tout ce vers lequel on court, ce n'est que de la vanité. Il n'y a que Jésus, le Fils de Dieu, qui apporte la vie. Et c'est le message que nous devons comprendre, que nous devons accepter dans notre cœur, et pour lequel nous devons aller de l'avant. Il était à l'arrière du bateau. Il savait ce qui s'est passé. Il est Dieu.
Il a créé toutes choses. Il a créé la terre. Il a créé la mer. Il a créé toutes choses. C'est qu'il est Dieu. Il voulait voir comment tu allais réagir.
Il voulait voir comment vous allez réagir. Vous avez Dieu avec vous. Vous paniquez dans la Bible. Dans une semaine, les crains point. Mais c'est comme ça le diable il agit. Même si parfois les hommes ne savent pas, il est juste le diable. Il travaille.
Cette femme, elle était dégoûtée. Parce que lui, c'est son travail. C'est la tête qui vient. Il a fait ça. Il vient et il passe à des petites pensées. Pas.
Pas. Il travaille par suggestion. Pas. Vous n'avez pas les fois. Alléluia. Il n'y a pas une chose merveilleuse que de parler de la part de notre Seigneur Jésus. Mais je vais m'arrêter. Alléluia. Et comprenez que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 2. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est la foi qui nous fait triompher du monde. Restaurer, relever, requinquer, redorer votre relation avec le Seigneur, votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Car même si on a l'impression qu'il domine la poupe, c'est lui qui dirige nos vies, il n'a pas encore dit son dernier mot. Souvent, dans la vie de tous les jours, même quand on commence une phrase, on commence par une lettre majuscule, il y a des virgules, il y a des points-virgules. Mais le point final appartient au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse votre vie. Et on va chanter un dernier cantique. Avec vous, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je vais le chanter, je l'aime bien. Voilà, je ne vais pas fatiguer les techniciens. Mais je ne sais pas si vous connaissez ce cantique-là. Si la mer se déchaîne, vous connaissez ? Si le vent souffle fort, si la barque s'enfreine, n'aie pas peur de la mort.
On peut souffler un peu.
Alléluia. Que tu coulerais, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord. On va terminer dessus. Thank you.